Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
À un demi-siècle de distance, mesure-t-on encore combien la guerre que les États-Unis d'Amérique menèrent au Vietnam aura marqué les opinions publiques du monde entier? Combien, dans les années 60 et 70, elle aura, un peu partout, rassemblé dans des mouvements d'opposition et de protestation, un large éventail de sensibilités politiques, des plus modérées aux plus extrémistes? Combien elle aura été déterminante dans l'émergence d'un activisme radical aux USA, comme le rappelait en 1975 le cinéaste américain Robert Kramer. C'est très difficile d'expliquer à quel point le Vietnam, le pays, le peuple et la grande lutte de libération fut décisif pour des milliers et des milliers d'entre nous. En un sens, ce fut comme un sang neuf pour nous ici, enfermés au sein de la nation dominante. Nous avons appris sur la lutte pour l'autodétermination nationale et son application à la lutte des peuples de couleur à l'intérieur des frontières des États-Unis. En 1969, avec People's War, Robert Kramer tournait au Vietnam la résistance d'un peuple sous les bombes. Plus de 20 ans après, il était de retour à Hanoï pour y tourner Point de départ, un film qu'il présentait au micro de Michel Simon dans Projection privée en 1994.
Projection privée. Ce soir, nous recevons le réalisateur américain Robert Kramer pour son film Point de départ, Starting Place, qui est sorti mercredi dernier au cinéma Entrepôt. Le film, d'ailleurs, a été montré aussi sur Arte, je crois, Robert Kramer.
Oui, ça a passé.
Et donc, l'occasion pour tous ceux qui n'ont pas pu voir le film à la télévision, de le voir au cinéma. Robert Kramer, évidemment, est connu des cinéphiles. Il est venu déjà à ce micro il y a 2 ans pour un film tout à fait remarquable qui était Route One USA, qui était un long voyage de retour au pays natal. Et Robert Kramer a tourné des films au Venezuela, il a tourné des films au Portugal, il a tourné des films en France. C'est un courrier international à lui tout seul. Et il aime en particulier faire ses retours, puisqu'au fond, Route One USA, c'était un retour dans votre pays, de même que Point de départ, c'est un retour au Vietnam. Alors qu'est-ce que c'est que pour vous ces expériences du retour? Ça vient d'un désir profond?
Il faut revoir les choses. Je crois qu'il faut toujours revoir les choses. Je ne sais pas qui a dit il faut faire peut-être toujours 2 films sur le même sujet pour en sortir un peu. Et je crois que ça résume à ça. C'est-à-dire, c'est pas exactement le même principe qu'un remake.
Mais, ni qu'une sequel, ni qu'une suite.
Non.
Ce n'est pas non plus une suite, c'est ni le remake, ni la suite.
Mais quand même, c'est un peu dans le même bain, quelque part. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de remake, c'est que...
Vous pouvez vous permettre de dire remake parce que vous êtes américain, vous savez que c'est interdit maintenant les mots anglo-saxons
en
français.
Si je peux vous demander une question, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi?
C'est un problème délicat parce qu'il y a un abus incontestable, mais en même temps, il y a aussi des mots tellement dans la langue française, comme musical et autres mots, qui sont très difficiles à transformer en français. Mais enfin, c'est un autre sujet.
Pas vraiment, parce que je veux aller vers notre sujet en me demandant, est-ce qu'on peut protéger une langue? Ou est-ce qu'on peut protéger une culture nationale, un cinéma national, dans une époque où tout va au-delà des frontières. Non, ça, ça appartient un peu à mon histoire d'être courrière internationale toute seule. Un peu, par exemple, le problème qui pose nettement le soulèvement d'embargo en Vietnam, qui est un peu pas sujet de film, mais fond de toile, de point de départ. Donc, est-ce qu'on peut?
Et, on ne sait pas si on peut, mais on ne le saura que si on essaye.
Oui, mais peut-être ça doit être toujours un geste conservateur, c'est réactionnaire, que ce n'est pas autre chose que ça.
Je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'en tout cas, on peut essayer. C'est évident, par exemple, que spontanément des Français, dans des conférences internationales qui se passent en France, parlent en anglais pendant la conférence, alors qu'il y a parfois même des écouteurs. Il y a même des possibilités de traduction. Oui, ça, je crois qu'il y a, c'est le fameux traité de la servitude volontaire. De la Boétie l'ami de Montaigne, qui avait traité sur le traité de la servitude volontaire. Il y a aussi des gens qui ont une tendance à la servitude volontaire. Alors on peut essayer aussi d'ailleurs je crois que souvent les gens qui défendent la langue française, c'est souvent les plus grands admirateurs de la culture anglo-saxonne. En tout cas, dans mon cas, je peux pas être soupçonné d'anti-américanisme primaire. Et en même temps, je suis un grand défenseur de la langue de mon pays. Et je crois que quand les gens parleront le français, cela dit, il faudrait aussi punir, puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues, il faudrait punir aussi ceux qui estropient la langue française constamment sans employer de mots anglais. Parce qu'il y a souvent des gens qui emploient certains mots anglais dans leur phrases, mais qui parlent un français impeccable, et des gens qui n'emploient jamais un mot anglais, mais qui littéralement massacrent la langue de leur propre pays.
Et moi, qui massacre la langue tout le temps, mais avec toutes les meilleures intentions. Alors, je ne sais pas.
Alors, Robert Kramer, revenons non pas à nos moutons, mais revenons à notre sujet qui est, vous aviez tourné il y a 25 ans, mais en fait, quand vous avez fait Point de départ, ça faisait 23 ans, un quart de siècle, disons, vous aviez tourné People's War, La guerre du peuple, qui était déjà un film, je crois, de 40 minutes, sur le Vietnam. Et donc, c'est aussi par rapport à ce film que vous avez fait Point de départ.
Ben, c'est Vietnam, 69, c'est Vietnam en guerre. Guerre assez incompréhensible. Comment ce petit pays résiste à cette énorme puissance technologique? Donc, guerre des peuples, c'est un peu essayer de déceler ça. Mais c'est peut-être beaucoup plus parce que c'est pas très difficile à imaginer comment le Vietnam était repositoire de tout un bagage des rêves, des imaginaires d'une époque, des années 60 et plus tard des années 70. Donc, retour à tout ça, c'est pas seulement retour à un lieu géographique, c'est retour à un des grands événements dans la fin du XXe siècle, c'est-à-dire un petit pays qui, pendant 50 ans, lutte pour son indépendance nationale à un coût inimaginable, c'est-à-dire un coût un peu semblable à la Holocauste. C'est 5 millions morts dans la guerre, plus 400 000 toujours MIA. Je ne sais pas comment dire ça en français.
Disparus.
Très bien, merci.
Des combattants disparus.
Voilà, donc 400 000 toujours disparus. Donc, pas seulement qu'ils ont fait tout ça, mais qu'ils se trouvent au bout de toute cette route, devant un constat que beaucoup des idées qui sont animées, tout cet énorme effort, sont disparus. Un peu comme fumée. Bon, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une idée, il y avait une idée en Vietnam qu'ils vont être à la fin remerciés par tout un monde socialiste qui applaudit cette énorme aventure. Mais il n'y a pas de monde socialiste, il n'y a rien de tout, il y a un marché libre et il y a l'invitation de s'intégrer dans cet énorme cirque qui est l'intégration économique à la fin du XXe siècle. Donc, retourner à Vietnam était un peu un retour à tout ça, et tout ça que je maîtrise absolument pas comme personne. C'est-à-dire, je crois qu'on est tous un peu dans le même bateau en disant, ben, quelque chose a vraiment changé. C'est-à-dire, on est déjà dans le 20e siècle, mais on ne sait pas les paramètres de tout ça, et on ne sait pas, peut-être même pas les mots. Donc, à ce niveau-là, ça manque les mots en anglais autant que les mots en français pour décrire un nouvel état de choses où beaucoup des fondements, par exemple que chacun a le droit de son propre pays, qu'il y a des cultures nationales, qu'il y a tout ça, et gravement mis en question par les développements. Donc j'ai l'impression que de retourner au Vietnam après 25 ans, je m'ai plongé dans quelque chose qui était autant mon histoire à moi qu'une histoire vietnamienne. Donc, comme d'habitude, je propose un film qui, tout le monde dit, est documentaire, et je sors à la fin avec un film qui est probablement fiction. Fiction dans le sens que, pour aller au bout d'une certaine histoire, il faut tellement élaborer, il faut tellement travailler la matière, qu'à la fin, je ne vois pas la différence entre le type de travail qu'on fait quand on dit c'est une fiction et ça.
Alors, Robert Kramer, dès vos premiers films, je me rappelle de la découverte de The Edge, qui avait été sélectionné pour la semaine de la critique en 67, de ICE sur les groupes terroristes, enfin la lutte armée aux États-Unis, film ouais. un peu de science-fiction, Milestones, qui était sur les communes. Ce qui est très frappant chez vous, c'est que vous ne séparez pas la politique, vous êtes un cinéaste, disons, engagé, mais vous ne faites pas du cinéma classiquement politique, c'est-à-dire où, avant tout, c'est le message qui porte. Chez vous, la politique est liée à la vie et elle est liée au cinéma. C'est-à-dire que vous restez un cinéaste et vous restez aussi un homme intéressé à la vie. Ce qui est frappant dans ce film, bon, bien sûr aussi parce que vous êtes à la caméra, que vous travaillez sur le montage, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à tous les stades de votre film et à tous les moments de la création de votre film, mais aussi dans la façon dont vous filmez Hanoï, la nuit, de la viande, des repas, c'est-à-dire le côté tactile, le côté de la vie quotidienne qui est inséparable, disons, de la vie au sens le plus large, de la vie de l'histoire.
Ben, j'ai l'impression que tout ça peut se résumer, je crois. C'est-à-dire, politique, c'est juste une question de la meilleure manière de vivre. Donc, je n'ai jamais fait une histoire que la politique était une question d'idéologie. C'est surtout, c'est tous les choix qu'on fait dans une sorte de continuum entre les plus petits, donc, comment je vais manger, comment je vais entretenir mon corps, quels sont mes rapports avec les autres, avec des femmes, avec des hommes, avec des enfants, tout ça, jusqu'au plus haut niveau, qu'est-ce que je pense sur la question de défendre un langage contre une menace. Okay. Bon, ça, c'est une chose. Alors, en plus, je crois que derrière ça, il y a cette idée qui rôde, bien américain, au fond, qu'on vit sur cette terre et que la possibilité d'améliorer la condition sur cette terre est quelque chose qui nous est donné. Et puis, encore derrière ça, il y a un énorme amour pour cette vie ici, parce qu'il n'y a pas un autre. C'est-à-dire, c'est bien possible qu'il y ait une continuité spirituelle ailleurs, mais ça me préoccupe pas du tout, parce que de toute façon, tous ces débats doctrinales sur l'après...
L'au-delà,
ça, je trouve, n'avance pas beaucoup. Mais cet amour pour des choses, pour les choses que les hommes fabriquent, enfin, les hommes et les femmes, qui nous fabriquons, je crois que c'est ça qui devient de plus en plus moteur maintenant dans le cinéma. Donc je crois qu'il y a beaucoup plus amour de ça dans Route One qu'avant. Et maintenant, encore plus dans Point de départ, parce que je crois que j'accroche encore plus à les gestes des gens. Par exemple, vous n'avez pas remarqué les pieds que normalement des gens remarquent, parce que c'est cette interface entre pied et terre qui m'a absolument fasciné, parce que nos pierres à nous sont tellement encaissées dans des choses cachées du monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que autant les temps sont difficiles, autant les bottes deviennent plus solides et que les semelles plus hauts, tu vois. Comme si on ne peut pas toucher à des choses par rapport à les Vietnamiens qui ont fait 50 ans de guerre dans des sandales faites de le reste de nos pneus, un peu comme ça.
Donc, le reste des pneus.
Oui. Donc tout ça et la fascination avec la fabrication de tout ce qui nous entoure et une sorte de beauté qui a rien à voir avec une idée de beauté traditionnelle ou une beauté qui est une beauté bidon, qui est la beauté de chaos qui est autour de nous. C'est vrai que j'accroche beaucoup plus à ça, peut-être dans une certaine désespérance.
Je me rappelle, je ne sais pas si c'est dans The Edge, je crois que c'est dans The Edge, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, il y avait un potier, il y avait une poterie, c'était absolument fascinant, c'était presque un film en soi, à l'intérieur de ce film sur des débats idéologiques aux États-Unis, oui. il y a 30 ans.
Oui, mais j'ai porté assez longtemps cette idée de poterie. Il y a aussi ça dans Milestones, dans la séquence le plus où il y a plus de l'amitié qui se noue autour d'un travail comme ça. Oui, mais je cherche ça. C'était assez étonnant. Vous savez, ce type de tournage, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps en cherchant des images clés. Des images qui va quelque part résumer toute l'histoire qu'on voit. Alors, je sais que la guerre de peuple, c'était difficile. C'était un temps de guerre, des bombardements et tout. Tous les tournages étaient assez hachés et tout. Et finalement, on est arrivé à un village vers le sud, vers le 17e parallèle, qui avait été dans le passé énormément bombardé et tout. Et là, on avoue une sorte de participation de tout le village dans les constructions des bateaux. Et on a tombé sur des gens qui scient à deux, à trois, dans un système de sciage que j'ai jamais vu, des planches. Alors, imaginons que pour un Américain, c'est impensable qu'on scie des planches. Bon, les planches arrivent, on ne sait même pas comment ils sont faits, les planches. Et là, on voit deux grands arbres jusqu'au bateau, tout. Et cet mouvement de scie à deux, est devenu quelque part le porteur pour tout ce qu'on avait à dire pourquoi les États-Unis finalement va perdre cette guerre-là. Parce que les gens qui peuvent faire les planches comme ça, ils peuvent peut-être faire n'importe quoi. Alors, j'ai retrouvé cette même image en Vietnam. Et vous avez remarqué dans le film, c'est autre chose. Et en retrouvant ça, j'ai trouvé une chose très, très mélancolique, parce qu'il y avait une sorte de bonheur de ma part, mais un bonheur qui est très, très malsain. Donc tout ça résonne dans ce problème Nord-Sud. C'est-à-dire, moi, en pleine admiration, en face de quelque chose qui, eux, aussi vite qu'ils peuvent arrêter de faire des planches comme ça, ils vont vouloir arrêter. Donc, ils vont, la prochaine fois, quand j'y vais, il ne va pas avoir des planches qui se font comme ça. Au moins, pas à Hanoï, peut-être dans les villages. Donc, tout était un peu comme ça, parce que je trouve que c'est là aussi cette histoire d'être un courrier, j'aime bien ça que vous avez dit ça, courrier international, parce que il y a autant de mélancolie et autant de se soupçonner de ses propres instincts. Parce que c'est vrai que notre civilisation hautement développée, ça me désespère et ça m'ennuie. Parce que c'est beaucoup moins intéressant à un certain niveau. C'est beaucoup moins intéressant, par exemple, d'être un spectateur devant la télévision comme un chiffre dans quelque chose qu'on appelle l'audience mondiale. Ou que toute l'humanité voit les Olympiques, c'est très bien à un certain niveau, mais c'est beaucoup moins intéressant pour moi qu'autre chose. Mais en même temps, c'est le constat. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui ne veut pas dire « Mon voyage arrête ici, je campe sur un terrain » où j'ai une mémoire d'un bon passé, parce que je ne crois absolument pas dans ce bon passé-là, mais en même temps, en allant avant, en acceptant des choses, il y a peut-être que vous devez approuver un peu la même chose.
Certainement,
aussi, par rapport au cinéma. Donc, pour moi, c'est une nouvelle matière.
C'est pour ça que je vous invite ce soir, parce qu'il y a d'autres cinémas.
Voilà.
Alors, puisqu'on parle de choses sensorielles, quand vous êtes retourné au Vietnam, Pour vous, qu'est-ce que c'est le Vietnam du point de vue sensoriel? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous attachiez votre souvenir, des choses que vous aviez vécues au Vietnam, que vous vouliez peut-être retrouver des odeurs, des bruits, des sensations? On voit des plans de Hanoï la nuit, on voit la préparation du pain. Alors, est-ce qu'il y avait des choses... Pour vous, le Vietnam, c'était quoi? Comme on se souvient d'Italie, d'un coin d'Italie ou un coin de la Flandre qui est associé à telle ou telle sensation?
Je sais pas exactement comment répondre, parce que le pays en guerre, c'était tellement différent que ce que j'ai rencontré. Donc, Hanoï était plutôt vide, parce que la population était évacuée à cause des bombardements. Donc, tout était décentralisé. On avait l'impression que la population se cachait. Et effectivement, une bonne partie de la population était souterrain, dans des abris et tout. Donc, mais ce que j'avais la mémoire le plus fort, c'était une sorte de chose dans le climat, l'atmosphère, d'être complètement engoncé par l'humidité, dans une manière qui était pas troublant, c'est-à-dire plutôt berçant, plutôt comme je nageais dans l'air. Cette densité de l'air, comme bougeait les bras, était un peu de couper cette atmosphère autour de moi. Et j'avais une mémoire d'une chambre d'hôtel. Et là, c'est beau, parce que j'ai recherché cet hôtel. Chambre d'hôtel, d'arriver la nuit, tout était blackout. Il n'y a pas de lumière à cause des bombardements, on ne voyait rien et tout. Et puis, soudainement, je me trouve dans une chambre d'hôtel de le 19e siècle. Chambre d'hôtel coloniale française, avec un ventilateur qui tourne très, très lentement, les mousquetières sur le lit, comme une sorte de fantôme, et des énormes cafards qui rôdent un peu comme ça. Alors, tout ça, c'est disparu. C'est l'hôtel le plus cher maintenant dans Asie du Sud-Est. C'est le Métropole. C'est un PLM bien connu à je crois, $300 la chambre. Et complètement refait. Donc, je n'ai pas trouvé ce type de mémoire, mais j'ai trouvé les choses physiques. Et la manière que des gens se restent juste à côté l'un à l'autre, mais avec une telle intimité très, très différente, par exemple, que cette capacité des Japonais de se mettre dans un seul endroit et de rester séparés. Là, la chose vietnamienne, c'est beaucoup plus familial. Donc, des choses comme ça.
Alors, Robert Kramer, le Vietnam a beaucoup compté pour vous dans votre vie. D'ailleurs, vous le dites dans le film. Vous vous souvenez que votre femme, Erika, et vous avez nommé votre fille Kija Ho, Ho pour Ho Chi Minh. Et c'est la naissance, je crois, que l'on voit dans oui. Milestones.
Non, c'est une autre. On était assez fascinés par les naissances.
Oui, parce que dans Milestones, il a aussi, dans votre film sur les communes, enfin sur la vie communautaire aux États-Unis, cette sorte d'utopie, il y a une longue séquence d'accouchement. Oui. Bon, donc, vous aviez donné le nom de Ho à votre... Elle a le nom de Ho.
Elle avait, et puis ça a devenu tellement compliqué avec l'administration française, parce qu'en Amérique, il faut dire qu'il n'y a aucune loi sur les noms, on fait comme on veut avec les noms, on change des noms, on fait... ça a devenu tellement compliqué avec la bureaucratie qu'on était obligés, Erika et moi, de se marier, première chose, de se marier après 25 ans, et puis d'adopter un seul nom pour la famille pour régulariser les choses avec la sécurité sociale et des autres administrations. Cela se dit que la fille, qui était assez contente, parce que je crois que d'être jeune et nommé Kija Ho, qui correspond à rien de tout, était un peu gênant, maintenant va reprendre ce nom-là, légalement, pour marquer son indépendance. Et il faut dire sans peut-être trop savoir qui est à l'origine de ce nom.
Alors pourquoi vous avez choisi Hanoï comme, disons, comme lieu de ce retour ?
Parce que c'est le repositoire de toute cette histoire-là. Cette histoire-là est finalement une histoire bien politique. C'est là où ça a commencé, cette idée qu'on peut se réunir et on peut quelque part libérer notre pays. Et c'était lié à une tradition des mandarins, par exemple, bien avant, d'une persuasion confucienne, comme ça, bien avant qu'ils étaient des communistes. Et tout ça se centrait à Hanoï, qui était toujours capitale historique. Et ça marque un peu aussi l'idée que ce film n'est pas vraiment sur le Vietnam. Alors, première chose, j'ai assez réticent vis-à-vis des idées de faire les films sur des choses. On ne fait pas des films sur des choses, on fait des films qui sont en soi les choses, tu vois, qui sont des expériences qui donnent à partager. Donc, deuxième chose, c'est certainement pas sur le Vietnam, dans le sens que ça touche absolument pas tout le parti sud du pays, qui est vraiment autre histoire.
Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, entre autres, c'est que vous déstabilisez le spectateur parce qu'il ne peut à jamais avoir une certitude quant à votre position. C'est-à-dire, c'est un film où il y a les personnages, enfin, les personnes qui parlent. Vous voyez, les personnages, je joue votre jeu de la fiction. Les personnes qui parlent ont des positions absolument antagonistes. Et le point de vue du metteur en scène n'est jamais présent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, cette interview du directeur de la télévision. télévision qui est d'une langue de bois absolue, qui nous dit, pour être objectif, il faut qu'un homme n'accepte pas le mensonge, qu'il se libère du calcul égoïste, qu'il ait un certain niveau de culture et de connaissance. Et cet homme, directeur de la télévision, nous annonce que lui, il a tout cela et qu'il dort le soir très tranquillement, il passe de très bonnes nuits parce que il vit selon des principes moraux, etc. Et puis, d'autre part, vous avez au contraire le jeune réalisateur qui vous parle de son père qui est mort pour la première lutte d'indépendance, puis de son frère qui est mort, et puis lui qui espérait, et puis qui dit que cet espoir est devenu une comédie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il parle du Vietnam d'aujourd'hui et de toute la désillusion qu'a pu représenter le Vietnam. Et à aucun moment, il n'y a une intervention de votre part.
Mais en gros, je crois qu'on vit avec des opinions. Tout le monde a des opinions sur des choses, et c'est très bien de les avoir. C'est extrêmement humain de les avoir. Moi, j'ai des opinions ici, mais au fin de compte, est-ce que les opinions sont vraiment... Est-ce que mes opinions sont vraiment très intéressantes? Je crois que le portrait que j'ai voulu donner, Vietnam, c'est ce déchirement devant un énorme sacrifice, et puis un constat qu'on ne sait pas trop bien vraiment pourquoi. Ou peut-être on sait pourquoi. Ou pas vraiment exactement pourquoi. Ou... Et ainsi de suite. Ce type, et c'est un peu ça le Vietnam. C'est tout le reste, c'est détails. Qu'est-ce que c'est la position du Parti communiste à ce moment? Est-ce que la position chinoise va gagner? Est-ce que la position plutôt qu'on veut être comme Singapour, Taïwan, Corée du Sud? Tout ça, c'est très très bien pour le monde diplomatique. Mais pour naviguer dans ce monde, moi je crois que c'est plutôt mieux. En fait, il y a beaucoup d'arrangements. Comme vous savez très bien, parce qu'on se connaît depuis longtemps, vous connaissez comment je travaille, il y a énormément d'arrangements dans la présentation de tous ces voix-là. On peut avoir des autres, par exemple, beaucoup des autres couleurs d'opinion. Mais quand vous avez parlé de personnages, c'est un peu ça. Ce sont mes personnages qui dansent dans cette danse-là pour finalement créer une expérience d'un certain Vietnam. Le Vietnam, ou un certain Hanoï, ou une certaine histoire, bon ça... Et c'est ça que j'ai vécu là et que je partage avec vous. Donc, mon opinion en plus de ça, un peu le film en entier, c'est mon opinion.
Alors, il y a ce personnage de Nyan aussi que vous filmez dans le cimetière et qui d'ailleurs, en fait, c'est lui, je me souviens maintenant que c'est lui qui dit qu'il peut dormir tranquille la nuit. Oui. Mais en fait, le directeur de la télévision pourrait lui aussi dire cette phrase.
Absolument.
Parce que ce sont des personnages qui, de ce point de vue-là, se rencontrent, ce sont des bons dormeurs. Et donc, Nyan, vous l'avez fait une séquence très très belle dans un cimetière avec des tortues qui soutiennent des pierres tombales. Alors, comment se fait ce genre? D'abord, le choix des gens que vous alliez rencontrer, interviewer, ça s'est présenté comment? Et puis ensuite, le lieu dans lequel vous allez les amener. Par exemple, cette séquence qui se termine par un panneau sur les arbres et avec le bruit des cigales. Ouais. Comment se fait... Enfin, là, il y a à la fois une mise en scène et en même temps, c'est en même temps, effectivement, quelque chose qui est pris sur le vif parce que vous ne saviez pas exactement ce qui allait se passer ni ce qu'il allait dire.
Bah, c'est votre intuition habituelle qui nous amène là parce que Nyan était mon traducteur en 69. Donc, il a fait tout le voyage derrière la guerre des peuples. Et quand je l'ai trouvé au début, j'ai vraiment voulu travailler avec lui et je lui ai donné rendez-vous dans ce lieu qui est cimetière, parce que je le présente comme ça, mais il n'est pas un cimetière. C'est une école. Et c'est l'école historique de formation des mandarins. De classe des...
Aristocratique.
Voilà. Mais qui était aussi très, très identifié avec l'idée d'un Vietnam indépendant des Chinois. Et cet lieu-là est le lieu saint de la nation. C'est-à-dire, il s'appelle le temple de littérature. Sur ces pierres tombales, qui ne sont pas des pierres tombales, sont les noms de tous les mandarins qui sont matriculés. Et ça date du 10e siècle, et c'est plus ou moins le symbole de la fondation de l'État vietnamien. Donc, j'ai donné Nyan rendez-vous là, parce que je pensais que lui, dans son personnage, il résumait le mieux que pouvait cette combinaison des éléments, de Confucien, marxiste-léniniste, cadre, il est loyal jusqu'au bout d'une idée très générale de cette entreprise vietnamienne. C'est-à-dire, c'est pas un idéologue, c'est certainement doit être un membre de parti, mais c'est pas un, Pas vraiment quelqu'un dans la nomenclature. C'est quelqu'un de très droit, exactement comme il est dans le film. Alors, première rencontre, ça passe très mal. C'est que, pour moi, de langue de bois. Et très frustrant, mais très beau dans la pluie. Et là, je garde juste la partie où il y a des bribes de phrases et j'essaie de communiquer mon ressentiment vis-à-vis de Louis en baissant dans la manière que la caméra s'en va de Louis, comme si on était ensemble, nous, et moi, je suis très mal content avec ce que vous disiez, et puis je ne peux pas vraiment vous regarder dans les yeux, donc je m'en vais. Et ça, c'est ce type de rapport entre deux personnes, c'est un peu mise en scène dans cette séquence-là. Et puis, cette nuit, après, j'étais très mal content de le laisser comme ça, parce que j'ai trouvé qu'il y a encore une autre route à faire. Donc, on ne téléphone pas à Hanoï, on va en vélo, parce que les personnes n'ont pas les téléphones. On va en vélo, je vais en vélo, et je trouve Nian, et je le demande, est-ce qu'on ne peut pas tourner une autre fois? Et lui, content. Et puis, on se donne rendez-vous dans le même lieu. Et j'essaie d'imaginer une situation, et puis finalement, je me dis, OK, on va utiliser toutes les technologies qu'on a... pour le laisser lui libre. Peut-être c'est aussi la caméra qui fait qu'il se sentit obligé de parler d'une certaine manière. On met les micro-radios, il peut s'éloigner, c'est un très beau moment à crépuscule, un peu comme ça. Et puis, je le demande de me dire, comme s'il m'écrivait une lettre, tout ce qu'il veut finalement que je comprenne de sa vie. Et il comment, et moi je suis assez loin et j'essaie de le suivre quand vous dites les choses faites sur le pif, une sorte d'improvisation avec des, absolument, là je suis là, heureusement j'avais des écouteurs, je pouvais entendre ce qu'il dit parce que j'étais beaucoup trop loin. Je le suis comme ça. Il commence à raconter cette sens de bien-être qui est quand même incompréhensible à nous, à mon avis, de se parler comme ça, d'avoir fait aucune chose pour laquelle on a honte. C'est inimaginable. À mon avis, il faut aller assez loin d'essayer de comprendre de quelle partie de l'âme ces idées sortent. Et puis, soudainement, juste quand il devient de plus en plus, à mon avis, vraiment honnête pour lui. Il faut dire honnête pour lui, pour nous, c'est autre chose, si on peut parler comme ça, mais pour lui, honnête, je commence à entendre cette bruit de cigale, et je vois que l'ingénieur de son, qui a aussi une perche et un micro, est en train de suivre une explosion de cigales dans un arbre. Nian continue de parler, et moi je décide, ouais, il faut que je monte vers les cigales. Et là, il y a... Bon, et c'est comme ça que beaucoup... Ça, c'est une vraie expérience avec quelqu'un où l'élément de mise en scène est extrêmement présent, mais qui nie absolument pas toute cette improvisation autour et qui, finalement, dépend aussi sur un assez grand développement technologique. C'est-à-dire que sont des micro-radios, sont la possibilité qu'un ingénieur de son peut mixer trois sources de son et relayer cette son à moi, à la caméra, sans une pellicule Kodak hypersensible qui permet de tourner avec un long focal, avec très très peu de lumière et tout. On peut vraiment pas fonctionner avec cette fluidité. Et beaucoup de films est composé comme ça, où je sais pas précisément ce que des gens vont dire, mais j'ai fait tout pour mettre ça dans un lieu et une ambiance et un cadre que je comprends.
C'est pour ça que pour vous, la mise en scène est inséparable de la caméra.
Que récemment, ça fait comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait les caméras. C'est vrai que j'ai fait les caméras en Milestones pour la partie où le caméraman jouait l'aveugle dans le film. Vous savez que l'aveugle dans le film, c'était le caméraman.
C'est un rôle vraiment de composition.
Ouais, mais vous connaissez John, de toute façon, vous l'avez rencontré à l'époque. Mais depuis Route 1, maintenant, ça fait 5-6 ans, je fais la caméra pour tous les films. Et je vais en continuer un peu, mais je crois que c'est une intervention qui a tout changé. Parce que le cinéma est devenu tellement subjectif que... Est-ce qu'on peut aller plus loin? J'ai un peu la question à vous, si vous ne pensez pas que le point de départ n'est pas à la limite d'une certaine décomposition des choses.
D'une certaine façon, ça l'est. Mais en même temps, est-ce que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que vous disiez sur la fiction et le documentaire. Est-ce que, pour vous, le choix des gens que vous allez rencontrer, c'est pas un peu comme quelqu'un qui hésite entre plusieurs comédiens pour jouer un rôle? C'est-à-dire que vous faites votre casting, excusez-moi du mot américain, anglais, votre casting va être, au fond, va se passer en amont. Mais au fond, le personnage, bien sûr, n'est pas écrit, puisque vous faites un essai, un peu comme Chris Marker, de son côté, en fait. Vous faites un essai qui est aussi, en même temps, une enquête. Et vous avez à avoir un choix multiple. Vous rencontrez des gens dans une soirée, vous dites, est-ce que celui-là, il pourrait pas faire partie de mon film? Ou au contraire, c'est celui-là qui va faire partie du film?
Je crois que c'est exactement ça. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y avait un certain moment où moi, je me sentis très incertain sur ce que je voyais. Un bon exemple, c'est Nyan qui dit « j'ai pas de remords, je pour rien ». Alors, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vois dans ses yeux quand il me regarde comme ça dans la caméra? Alors, j'ai besoin de parler de ça dans le film. Mais j'ai pas envie vraiment de penser que quand je retourne à Paris, je vais écrire des textes sur être aveugle. Donc, au même moment, mon assistant commence à parler d'une école des aveugles. Et je plane un tournage aux écoles d'aveugles sans avoir jamais visité, avec l'idée que peut-être là, je vais trouver la métaphore pour cette manque de clarté, de vision. Et c'est vrai que j'entre dans l'école et le premier plan tourné est basé sur la première chose que j'ai vue, c'est ces jeunes qui jouent aux dames. Ces mains qui cherchent des pièces qui représentent le pouvoir, le chevalier, le roi, la dame, la reine, tout ça. Et puis, ils sont aveugles. Comment ils font ça? Et c'est vrai que c'était exactement dans une écriture, quand on cherche une métaphore, c'est ça une métaphore. Et c'est une métaphore qui devient de plus en plus riche parce qu'à ce moment-là, je peux retravailler. Donc, je fais un premier tournage. La première fois, vraiment en train de pleurer, parce qu'il y avait quelque chose dans cette fait d'être aveugle qui était énorme. Et puis, un certain tournage, et puis j'ai compris que ce n'était pas complet. Donc, je reviens, pas tout de suite, peut-être une semaine après, je refais un rendez-vous. Et je retourne à ce moment-là avec beaucoup plus de connaissances et conscience pourquoi j'ai fait ça. Et comme vous dites, un casting, c'est le réel est là pour faire son casting.
Alors, pour prouver que ce film, c'est pas un film sur le Vietnam, mais en fait un miroir et un film qui, au fond, parle aussi de vous et de votre situation, il y a ce personnage de Linda Evans,
n'est-ce pas,
en prison, d'une Américaine qui, elle, est en prison là-bas, aux États-Unis, parce qu'elle a participé à des combats politiques et qu'on lui fait payer très très cher cette participation. Et c'est ce personnage qui est un peu très très loin du Vietnam et en même temps très proche.
Elle était vraiment très importante dans l'idée de film. Elle n'existait pas au début. Son importance était claire quand je suis revenu après le tournage en Vietnam, en me disant, oui, les Vietnamiens, ils ont beaucoup bavé et ils ont encore une route à faire. Mais de l'autre côté, moi, personnellement, j'ai pas vraiment beaucoup bavé, mais j'ai beaucoup été travaillé par le Vietnam. Mais il y a des gens qui ont bavé pour leurs idées. Et puis j'ai cherché et j'ai trouvé que Linda était en prison. Alors, elle n'est pas en prison à cause spécifiquement du Vietnam. Il y a certains gens qui sont toujours en prison à cause de ça. Mais elle a son opposition à la guerre. Mais elle est en prison à cause d'une continuité des idées. Donc elle fait 40 ans.
40 ans de prison.
40 ans de prison. Elle a été arrêtée en 45. Si elle sort, toujours, parce qu'elle est très, très sceptique sur la question de pardon.
En 65, elle a été arrêtée.
Non, 85.
En 85.
Donc, elle va sortir en 2014, si elle sort, si elle est toujours en vie. Et elle a été finalement inculpée pour usage de faux d'acheter une pistole et aide à une fugitive. Alors, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire en Amérique. Mais on fait 10 ans pour le meurtre. On fait 5-6 ans pour viol. Alors, il fait 40 ans. Donc, il faut penser qu'elle est là à cause de ses idées, à cause des questions politiques. Mais Elle est importante dans le film parce que quelque part, elle est notre partie de l'équation. L'équation était nous plus eux, toujours, et quelque part, nord, sud aussi. Je trouve, je suis vraiment très content qu'elle sort dans la manière qu'elle sort dans ce film, parce qu'il y a un sens où elle est là très peu, mais elle reste vraiment très très fort avec les gens, parce que je crois que, par exemple, très simplement, des gens qui étaient opposés à la guerre dans les années 60 étaient assez courageux. C'est assez compliqué d'être contre son propre pays en temps de guerre, comme savent des gens ici, pendant la guerre en Algérie ou pendant l'occupation. Et ça mérite d'en parler. Ça mérite d'en parler.
En tout cas, ça méritait de faire le film.
Oui.
Merci Robert Kramer. Je rappelle que votre film, donc Retour au Vietnam, c'est Point de départ, que l'on peut voir en ce moment à l'Entrepôt.
Cette émission a été diffusée la première fois le 13 mars 1994 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Give me an F. Yeah. Give me a U.
Yeah.
Give me a C.
C.
Give me a K.
Yeah.
What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just don't be afraid if they drop the bomb, dropping on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when the blowing of all the kingdom comes. Sing it! 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask, don't give a damn. Louder! Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6,
six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. All right.
I don't think he's convinced. I think he wants to hear a little more from you. Come on.